Bonjour et bienvenue au One A Club, le podcast BD bimensuel. Qui sont les Snorkies?
Qui mais qui sont les Snorkies? Les super gentils.
Et voilà, on est arrivé dans le pays des bisounours, on est super content, super heureux, tout va bien.
C'est pour ça qu'on va parler de trucs super joyeux aujourd'hui, hein. des bandes dessinées pleines de bonne ambiance, de
et
joie,
oui, de joie,
humour,
de bonne humeur, que du bonheur. Bonjour à tous.
Bonjour, j'espère que vous faites bien plaisir à écouter notre podcast, à écouter aussi nos hors-séries qui vont être de plus en plus nombreux.
On l'espère.
On l'espère.
On travaille. Enfin, pied travaille pour. Parce que moi, je ne fais absolument rien.
Mais qu'est-ce que tu le fais bien? Non, je veux dire, non, je ne peux non. que te féliciter, tu fais ça, mais.
Dans le rien, je suis exceptionnellement.
Oh là là. Franchement, moi, je ne sais pas comment je ferais. Parce que si t'étais pas là pour faire rien à ma place, je ne sais pas comment je pourrais m'en sortir.
Mais la répartition des tâches est très bonne.
Oui, oui.
D'ailleurs, note quand même que j'ai mis le premier commentaire sur.
Le site.
Il y a
un petit moment déjà maintenant.
Ah, oui, non, mais bon, on ne l'a toujours pas dit, ça n'a toujours pas été remonté. L'info ne m'est pas remontée comme quoi les gens avaient réagi, que dans Le Monde, on avait fait un article d'ailleurs sur ça.
Bon. Petite émission un peu particulière, parce qu'en fait, on aurait dû avoir du rattrapage, et puis comme on était un peu à la bourre sur les nouveautés, il n'y aura pas de rattrapage. Et nous allons parler que de presque neuf. Et
on entame
dans
tout de
le
suite.
Désordre le plus total, en vrac, on s'en fout, on commence
on par...
Invincible. On commence par Invincible, c'est parti.
Invincible, donc nous sommes au tome 5.
Par Robert Kirkman et Ryan Otley.
Mais qu'est-ce qu'il est fort, Invincible.
Mais qui est Invincible? Mais oui, il est fort. C'est quand même un des plus forts. Hein,
un des plus forts avec The Goon.
Voilà.
Alors, que se passe-t-il dans ce tome?
Oh là là, il s'en passe des choses dans ce tome.
Eh bien donc, notre cher Invincible continue sa petite vie, on va dire, d'étudiant. Il a sa copine, sa petite vie de tous les jours, son coloc, tout va bien.
Voilà. Et il y a Science Dog qui l'attaque.
Yeah.
Science Dog, c'est son... Enfin, qui l'attaque, qui vient lui parler. Et donc lui, il se dit, ah, c'est quoi ce délire? Alors il l'attaque.
Oui, parce que c'est son personnage comique préféré, mais...
C'est un personnage de comique, quoi, il n'existe pas.
Ça n'existe pas. Un chien intelligent de 2 mètres de haut, ça n'existe pas.
Et en fait, c'est très très dur de parler de cette série sans spoil, parce qu'il y a beaucoup de rebondissements de situations non-stop. Je pense que ce qu'il y a à savoir, c'est que Science Dog, en fait, c'est un extraterrestre qui a pris cette apparence-là, parce qu'il savait que c'était le personnage préféré et qu'il pensait que ça ferait bonne ambiance, qu'il serait bien pris comme ça, ce qui est un peu foiré. Et en fait, il demande à Invincible de venir l'aider dans son monde qui a de graves problèmes.
Qui va même disparaître.
Voilà. Et donc Invincible décide d'y aller, alors que son boss n'est pas du tout, mais pas du tout, d'accord.
Le mec qu'il paye.
Et c'est aussi la première fois qu'il part sur une mission longue, alors que sa copine sait qui il est.
Oui.
Donc ça a des conséquences assez intéressantes. Et bien sûr, comme vous vous en doutez, le but de sa mission n'est pas ce qu'elle en a l'air au premier abord. Il se fait un peu piéger, entre guillemets. Et c'est bourré de rebondissements de situation. Avec en parallèle, quelque chose qui continue d'évoluer, mais en douceur. Les clones qui continuent, les clones molleurs, continuent à vivre leur vie. Ils font rien d'intéressant, hein, à part.
Ah non, mais rien. Si, à part se taper sur la gueule.
Voilà. Mais on sent qu'il va y avoir un truc, quoi. Et puis il y a plein d'éléments comme ça qui ont été mis en attente. Genre l'extraterrestre qui a pris la possession de l'astronaute. Donc plein d'éléments qui ont été mis en attente. Sauf que là, il y avait quand même le numéro 25 d'Invincible à faire. Il fallait faire un truc fort et ils ont trouvé. Mais on ne va pas dire quoi parce que quoi.
Parce qu'on ne va pas spoiler. Mais c'est un tome très intéressant.
Très intense, surtout.
Intense, oui, sur tous les aspects, on va dire, du personnage d'Invincible. Ouais. Dans tous les aspects de sa vie, il y a des changements, il y a des choses qui se passent. Et voilà, c'est une histoire qui est bien à lire.
Si vous avez aimé, en fait, ce que tous les précédents, celui-là, il est encore mieux, en fait. voilà, hein, c'est facile.
Non, mais ouais, exactement, c'est le meilleur.
Le dessin de Ryan Otley est toujours aussi agréable, toujours aussi frais. Kirkman continue à reprendre tous ses codes du comics super-héros classique, mais en les rafraîchissant, et avec une narration mais super fun, quoi, pas prise de tête. En plus, l'édition est sympa, les bonus à la fin sont assez marrants, où ils expliquent comment ils travaillent, les croquis de Kirkman sur certains trucs, les délires que le dessinateur peut faire, parce qu'il y a certains dessins débiles au milieu.
Oui, il y en a certains qui sont quand même carrément.
Ouais,
Je
il y a
trouve
des
que c'est...
planches
Il y a des
bien
planches qui sont
violentes.
bien violentes et qui sont en plus, je trouve, très violentes, mais très bien menées.
Très visuel. Okay. Oui, il y a des passages gore en fait. Si tu regardes bien, il y a des passages gore. Et pourtant, ça tient la route. Enfin, c'est pas dérangeant. C'est même étrange que ce soit pas dérangeant. Et puis toujours aussi cette parodie. Je veux dire, quand il y a la menace du moi qui doivent affronter les gardiens du globe, parce que c'est ça en gros. Hein, ils ont le méchant du moi, les gardiens du globe. Il y a Samson, donc
Qui est
ça,
revenu.
qui est revenu. Ça, c'était une histoire parallèle un petit peu. Enfin, il se passe beaucoup de choses en parallèle de l'aventure
On a
de.
spoilé. Black Samson revient.
Ouais, mais bon, ça, c'est rien, ça, on l'apprend assez vite. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui évoluent en parallèle de l'intrigue autour d'Invincible. Et ce qui fait que c'est riche, mais on n'est jamais perdu. Il ne multiplie pas tant que ça les arcs parallèles, et on n'est jamais perdu, c'est bien mené. Et puis ça arrive aussi à être touchant, par moments. Donc tu recommandes.
Là, vraiment, je le recommande chaudement. Je me suis régalé à le lire. Et je
Ouais.
suis d'accord avec ton avis. Le tome 5, Un autre monde, est vraiment le meilleur tome d'Invincible pour l'instant.
Et les autres étaient déjà pas mal.
Et oui, en plus, c'est que les autres étaient bons. C'est pas qu'on est d'un coup, on est passé de nul à bien. C'est que les autres étaient bien, mais là, vraiment, il est très très bon. Et nous passons à la suite.
On est rapide, c'est ta phrase fétiche. Hein? Tio, nous passons à la suite.
Nous passons à la suite. Mais t'inquiète pas, en classe, j'ai remarqué qu'il y a une... Alors et donc,
Oui, j'en ai aussi des comme ça.
ce sont les deux mots, je pense que mes élèves, ils doivent pouvoir te dire alors, donc,
Et donc?
et donc nous allons passer à,
Vous en avez dit dans le désordre complet, tu peux y aller,
donc
choisis.
je fais ce que je veux, le petit chaperon rouge et ce qu'il advint dans le ventre du loup, qui est donc paru chez Soleil,
Collection Blackberry.
j'allais dire Blackberry, mais j'étais pas sûr parce qu'avec le reflet, et puis j'ai pas mes lunettes, si j'ai mes lunettes. Oula, le café il fait pas
Ouais,
effet là.
ok, ouais.
Donc qui est une histoire originelle d'un petit auteur français, je crois, ou belge, je sais plus, Charles Perrault.
Oui, français.
Français, hein, c'est ça.
Là, je confirme.
Ah, il est français. Et donc illustré par François Moretti, avec donc une petite traduction japonaise donc de Akiko sur la première partie, et ensuite donc ce qu'il advint dans le ventre du loup,
Scénarisé.
par Audrey Alouet.
Alouette, qui est aussi la directrice de collection de Blackberry, qui est une collection. J'arrive pas trop à savoir quelle est
La thématique.
la thématique.
Ouais.
J'ai l'impression que c'est le gothique japonais, les gothiques Lolita, quoi.
Je pourrais pas te dire. Là,
Bon.
je sais pas. Alors donc, une histoire intéressante. Donc, on a le conte du petit chaperon rouge, on va dire traditionnel.
En version originale traditionnelle, que je n'avais jamais lu en fait. Je n'avais jamais lu, je ne savais pas qu'il y avait des vraies morales à la fin des contes de
Eh
Perrault en
oui.
fait.
Eh oui. Eh oui. Non, ça, je savais.
J'ai
Mais bon, il
découvert
faut être
ça.
instit pour ça.
Ouais. Enfin, j'ai découvert ça et j'ai trouvé ça très très sympa de découvrir cette morale. Et puis la fin, elle est waouh! C'est brutal, hein, c'est et il la dévora. Point. C'est fini. Super. C'est enfin très 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 sympa. Et on a ces illustrations de François Moretti. Alors, François Moretti, illustrateur. Alors, tu sais, je l'ai fait les annonces à Drucker. François Moretti,
Oh,
illustrateur.
t'as vu qu'il relance Champs-Élysées? Ah, t'as pas vu ça?
Si, 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 si,
Non, mais
non,
attends,
mais
et
non,
moi je trouve
mais.
c'est un revival de ma jeunesse, quoi, avec mes parents, c'est le samedi soir devant la télé. Oh, Champs-Élysées!
Oui, je veux dire, bientôt on se mettra les VHS de quand on était môme, mais on aura la même chose. Hein. Et qu'est-ce que tu regardes après La Roue de la Fortune? Ah, je sais pas. Ah, il y a Champs-Élysées! Non, mais c'est bon, quoi.
Oh!
Hein?
Attends, Champs-Élysées, une vraie émission, enfin, une bonne émission de variété française!
Ouais. Ouais. Ouais.
Comment ça? Bon,
Bon, on
alors on
parlait
en
du petit chaperon
revient au
rouge,
petit chaperon rouge.
illustrateur.
Bon,
Hein?
alors juste quand même, pour finir, avant que tu fasses l'illustration, c'est quand même aussi que le texte est traduit aussi
En japonais.
en japonais.
Ce
Donc.
qui m'a fait aussi très étrange. En fait, il faut savoir que François Moretti est un auteur qui a travaillé au Japon, qui a eu un petit succès là-bas apparemment. Et je pense qu'il a eu suffisamment de succès pour que Soleil se permette de sortir le bouquin au Japon et en France. Et je pense que c'est en plus le genre de lien qui doivent être bien aidés par un certain Jean-David Morvan, qui s'intéresse beaucoup au côté asiatique, et il me semble qu'il a travaillé là-dessus. Enfin, je dis peut-être n'importe quoi, en fait.
Tu dis des choses qui n'engagent que toi.
Voilà, je mélange peut-être.
Après,
Parce que je sais qu'il non, il est aussi
tu fais ce
Shankama sur des trucs. Non,
tu
je crois que
fais
je suis
ce
en
que
train de me
tu
faire un flan
veux.
total, donc oubliez ce que je viens de dire. Bref, c'est traduit en japonais, c'est bien, on s'en fout en fait, parce qu'on ne lit pas le japonais. À
Mais
part que ça
c'est
fait des belles images.
ouais, alors, je veux dire, ça fait quand même joli.
Oui. Surtout que la mise en page est bien travaillée. Donc c'est un style très très fin, qui fait penser un peu à un côté gravure à l'ancienne, mais avec une approche asiatique des visages et des corps. C'est-à-dire que la petite fille a vraiment un corps tout petit, très fin, avec une grosse tête, avec des yeux énormes. Et pourtant, c'est bourré de petits traits, de hachures dans tous les sens, qui font un peu penser à un petit côté Gustave Doré, enfin tous les graveurs qu'on avait au 19e siècle.
Alors donc, enfin, toutes les illustrations sont en noir et blanc, sauf bien évidemment
Le chaperon,
le chaperon rouge.
qui a un chaperon rouge. Voilà.
Ah si,
Sauf.
il y a les petits cœurs et les chaussures aussi.
Ouais.
Enfin, ce sont les seules couleurs qu'on a, c'est vraiment le rouge et le noir.
Sauf, ouais, voilà. D'ailleurs, qui dans la partie bande dessinée n'y sont pas.
Non.
Et la partie bande dessinée, parce que c'est un peu la partie originale, celle qu'on ne connaît pas du tout. Enfin, on est sûr que personne la connaît.
C'est ce qu'il advint dans le ventre du loup.
Donc, bah, en gros, on voit le petit chaperon rouge dans le monde du loup et qui voudrait en sortir, et on voit comment il fait pour en sortir. En gros.
Et je trouve, super intéressant. C'est bien écrit. C'est une petite histoire sympa.
C'est une petite histoire sympa. Je crois que c'est le petit histoire qui résume. C'est un beau livre. C'est un beau conte. La partie bande dessinée est un peu courte et un peu anecdotique. C'est un peu dommage parce que je serais bien resté plus longtemps dans cet univers.
Elle fait, je crois, attends, je dis pas de
Ouais.
bêtises, elle fait 15 pages.
Voilà. C'est.
Ça, c'est vrai que c'est le seul regret, parce que du coup, tu rentres donc dans le. Presque, on va dire, dans une sorte de monde, ouais, dans un monde onirique, on va dire, où qu'est-ce qui se passe dans le loup, parce qu'il y a des transformations, il y a des habitants dans le
Tous
loup,
les autres,
tous
toutes
les
les
autres
autres
personnages
personnes
qui
qu'il
ont
a
été
boulotté
mangés,
avant, quoi.
et on commence, il y a des choses qui se mettent en place, des choses qui se passent et qui sont intéressantes, qui sont originales, et puis bon, ça s'arrête un peu vite. C'est vrai que ça, là, sur ce côté-là, on reste vraiment sur sa fin, c'est dommage. Mais bon, après, le livre en lui-même est quand même, c'est un très joli livre. Ils ont rajouté des petits bonus à la fin, la robe du petit chaperon rouge, la chanson du petit chaperon rouge, la recette de la galette.
Qui sont racontés de façon assez marrante en
Ouais.
plus.
Et puis bon, des petites biographies après
Des
des
biographies
auteurs.
des auteurs qui sont bien, bien faites. La biographie de Charles Perrault est très intéressante. Les autres auteurs, bah, leur biographie est aussi intéressante, mais forcément moins marquante. Voilà. Bref, quelque chose de très très bien. Tu l'avais découvert par la. T'en avais entendu parler par la dédicace qu'il y avait à la BDRI, ou c'est une
Ouais.
totale coïncidence?
Alors, en fait, oui, j'en ai entendu par la dédicace qu'il y avait eu à la BDRI, par le mail que j'avais reçu,
Sans pouvoir y aller.
sans pouvoir y aller, forcément. C'était pas le bonjour, comme d'habitude. C'était pas le bon mois non plus, parce que Monsieur Portemonnaie me disait non. Et donc, du coup, voilà, quand je suis tombé dessus, j'ai dit, tiens, ça sera un très très bon cadeau pour le Papa Noël. Et exactement, en fait, le Papa Noël a fait un très beau cadeau.
D'accord. Eh bien, nous allons pouvoir passer à Scott Pilgrim numéro 4.
La BD qui a inspiré le film Scott
Oui,
Pilgrim.
c'est écrit en gros dessus. D'un autre côté, je suis pas sûr que de dire qu'il y a eu le film Scott Pilgrim soit un argument de vente, vu
Le
qu'il n'est
flop.
passé qu'une semaine en France, dans 60 salles.
Ouais, mais tout le monde a un avis en disant que le film, en fait, sera une sorte de référence filmique dans 10 ans.
Pour la
Pour la prochaine
prochaine
génération.
génération, ouais,
C'est ça, tout le
c'est
monde fera
possible.
oh, Scott Pilgrim était exceptionnel, c'était des trucs de
Ce
visionnaire.
sera leur retour vers le futur à eux. Ouais.
Voilà. Et donc, je sais pas, je l'ai pas vu.
Retour vers le futur. Ah pardon.
Et dis-moi, tu le veux,
Tu
tu as rouge dans la tête quand même.
m'effrayais un grand coup
Et
là.
je te ferai pas. Enfin, il me
Oui.
semble qu'on s'est fait une séance
Ouais.
l'intégrale. Il y a encore même pas deux ou
Ouais, on
trois
n'a pas vu le
mois.
dernier encore hein, d'ailleurs.
Si, on a fait les 3 d'affilée.
Non, 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 le dernier, tout le monde dormait. Parce qu'on est vieux.
Tu rigoles ou quoi? J'ai vu la fin.
Non, non, pas moi. Donc,
Ah, tu dormais alors.
non, moi je dormais pas. Scott Pilgrim numéro 4. Get it together. Et c'est un tome encore très drôle qui commence par quelque chose que l'on n'avait pas eu jusqu'ici, des pages en couleur. Et les pages en couleur sont super sympas.
Et d'ailleurs, s'il pouvait le faire entièrement en couleur, ce serait plus facile à lire.
Oui, Alors, Scott Pilgrim, rappelons-le, est ce jeune homme qui est un petit peu un loser, qui est tombé amoureux de Ramona Flowers, une livreuse chez Amazon qui utilise les portes spatiales pour livrer plus vite, mais qui, pour pouvoir continuer à sortir avec elle, doit affronter ses 7 ex maléfiques. C'est résumé plutôt pas mal. C'est une BD en noir et blanc d'origine canadienne au format manga. 6 tomes sont prévus. Nous en sommes au tome 4, c'est bientôt la fin. Et un film est sorti il y a peu. Et donc, on l'a dit, ça a fait un flop. Bien résumé.
Bien résumé. Mes félicitations. Voilà.
Que s'est-il passé lorsque j'ai commencé à lire ce livre? Je me suis dit, tiens, peut-être qu'il y aura un chouette résumé comme dans le précédent bouquin. Alors, je suis allé à la fin. Parce que dans le précédent, ils avaient mis le résumé à la fin. Et qu'est-ce qui s'est passé quand je suis arrivé à la fin? J'ai droit à la superbe planche, super drôle.
Stop, arrêt, tu es à la fin du livre, je crois faire quoi là? Tu te prends pour qui? Et donc du coup, il te propose de quelques options en fait pour lire le livre. Soit en fait, tu le fais donc de gauche à droite et de haut en bas, hein, un petit peu. Ça c'est la manière. Bon, ça c'est pour les nuls quoi. Et après, tu as l'option freestyle. Tu lis les cases dans l'ordre que tu as envie, n'importe comment, en allant dans n'importe quelle page.
J'ai trouvé ça très drôle, cette parodie d'avertissement de manga qu'on a dans tous les mangas. Attention, tu es à la fin du livre. Bon, ça commence à faire des années qu'on publie des mangas. J'aimerais bien voir quelqu'un qui saute la première page et qui lise tout le manga à l'envers en disant « Ouais, c'est nul les trucs japonais, ça veut rien dire, on comprend rien. »
Non, mais en plus, je trouve ça joli, parce qu'il te dit « Toi, c'est ton livre maintenant, tu laisses pas ce mec te dicter ta façon de lire. »
Tu lis comme tu veux.
Voilà, tu lis comme tu veux. Et surtout, tu as le petit truc tout en dessous, écrit en tout petit « Attention ». Page à but récréatif, n'essayez pas d'en tirer un quelconque enseignement.
Voilà.
C'est beau. C'est...
Je trouvais ça très très fun.
Et donc à la fin, parce qu'on continue sur la fin, donc on a des différents auteurs qui sont venus dessiner sur Scott Pilgrim, justement, les artistes invités, comme d'habitude.
C'est des potes, je pense, la plupart.
Voilà, que je ne connais absolument
pas. De Brian Lee O'Malley. Oui, je pense que c'est beaucoup de gens de la scène indé canadienne.
Mais il y en a qui sont pas mal.
Oui, oui, il y a des trucs sympas, donc des petites histoires fun, des gros délires. Puis en plus, c'est des potes, je pense, parce qu'il y a beaucoup de private jokes, j'ai l'impression, dedans, ces petites histoires.
Et donc, nous parlions du résumé, qui n'était pas présent à la fin.
Voilà, pour savoir qui était quel personnage, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages, et c'est pas toujours évident.
De faire la différence. Et ?
Eh bien, il n'y en a pas.
Et au début ?
Non plus.
Eh bien, voilà.
Donc, bon, c'est pas grave, hein, on a le tome précédent, en général, pour céder. Que nous arrive-t-il dans celui-là? Un mystérieux homme avec un sabre suit Scott Pilgrim et une autre personne qui traîne dans l'ombre, genre ninja, suit Scott Pilgrim.
Aussi.
Aussi. Tintin, serait-ce d'autres ex-petits amis de Ramona? Vous le saurez en lisant cet album. Qu'as-tu pensé de cet album?
Alors, je me suis un peu ennuyé au début.
Ouais.
Parce que bon, là, c'est tout l'échange. Scott se pose des questions sur sa vie, sur son œuvre, sur tout, sur rien. Et puis ensuite, on arrive à un passage un peu plus intéressant où.
Déjà, Scott doit trouver un boulot.
Oui, il doit trouver un boulot. Il doit aussi se faire un appart. Parce qu'ils arrivent à la fin de leur bail.
De leur bail. Avec son... Oui, parce qu'il vit dans un appart avec un seul lit avec son pote homosexuel. Et ils dorment dans le même lit. Mais en tout bien tout honneur.
Bien sûr. Et donc, oui, voilà. Au début, moi, je suis un peu ennuyé, parce que bon, c'est vrai, c'est l'histoire de... Là, tu suis Scott Pilgrim.
C'est le côté qu'il y a dans chaque tome, qui est un petit peu voilà, BD, introspective, voilà, de sa vie de tous les jours. Rien de magique, rien de spécial.
Il mange, il sort, et ici, il enregistre un album avec son groupe. Les Sex Bombs. Et ensuite, on arrive au moment Fight, avec les révélations. Où on sait qui est le ninja caché, on sait qui est le Bruce Lee avec le sabre. Et des passages intéressants, on est toujours dans le monde du jeu, hein. il gagne des pecs.
Pas mal d'ailleurs dans ce tome.
Ah oui, parce qu'à un moment il fait The Revelation.
Il passe un méga niveau. Hein. Il passe un méga niveau.
C'est là.
Il pousse des pecs, hein, comme on...
Ah ben là, ben, faut avouer quand même qu'il a tué le petit nain de jardin qui passait. Quoi, hein. Ouais. Je crois qu'il se fait 9000 pecs d'un coup.
9999. Enfin bref, moi j'ai trouvé cet épisode beaucoup plus réussi que les précédents. Dans le sens où je trouvais que narrativement on était beaucoup moins perdu, que c'était beaucoup plus clair. Au niveau du dessin aussi, au niveau graphique, on se perdait beaucoup moins. Je trouve qu'il y a un réel progrès graphique et narratif. C'est-à-dire que bah, l'histoire est toujours prise... entre ces deux côtés, hein, ce côté l'histoire du jeune adulte qui essaye de mettre, donner un sens à sa vie, de faire quelque chose de sa vie, en fait. Et ce côté plus manga, baston, délire, ambiance jeu vidéo. D'ailleurs, le quatrième de couverture est, en pixel art est très sympa aussi. Et là, je trouve que vraiment, il y a une maturité dans ce tome-là qu'il n'y avait pas dans les précédents.
Il a gagné le Eisner Award 2010 du meilleur BD du monde.
Ouais, pas bien. Bon, donc...
Non, un bon tome. Un bon tome. Maintenant, voilà, on attend la révélation quand même sur Ramona. On a déjà une petite...
On sent qu'il y a un truc là...
Parce que là, en fait, là, il n'y a eu pas trop de révélations. Il n'y a pas eu de fight ultime contre un ex-petit ami.
Ouais.
Non, un fight ultime, j'ai dit. Avec un ex-petit ami caché. Donc, du coup, là...
Il y a baleine sous caillou, quoi.
Une énorme baleine.
Ouais, parce qu'en fait, il se retrouve dans les rêves de Ramona.
Oula, oui.
Et ça, il voit des choses qu'il n'aurait pas dû voir. Enfin, c'est très,
qu'il devait oublier. Enfin, bon. Oula.
Ça commence à devenir... Enfin, je trouve que voilà, l'intrigue devient bien prenante et bien fun. Et nous allons passer à Pluto numéro 6.
Ou Lock and Key.
Non, Pluto numéro 6. On garde Lock and Key pour la fin.
Ouais. Eh bien, Pluto numéro 6.
Il est au bout de la table.
Ah, je l'ai retrouvé. Eh bien donc... Alors, comme ça j'aurais fait les deux mots dans une phrase. Pluto numéro 6, toujours un polar palpitant, donc signé donc Urasawa.
Naoki de son prénom.
Et donc 20th Century Boys,
basé
sur une histoire originale de Tezuka, Astro, le robot le plus fort du monde.
Voilà. Et ça avance pas mal.
Eh bien, notre cher détective
Gezich
commence à avoir des gros... On va dire, commence à pouvoir répondre à des questions sur qui est le robot qui tue tous les robots les plus forts du monde.
Qui est Pluto ?
Qui est Pluto ?
Aussi, qui est une autre question. Aussi.
Et on se retrouve donc dans une... Alors là aussi, la petite version colorisée du début me fait regretter vraiment qu'il ne passe pas un jour à du coloriage. Quoi. Parce que ça pète.
Oui, c'est très très bien. Les couleurs sont... Petit côté pastel.
Ouais, mais en plus avec la colorisation qu'ils ont choisie, plus on va dire le thème, je pense que ça aurait pu donner un truc, mais... Absolument génial. Mais ça n'est pas fait.
Non.
Alors, donc, nous en sommes où dans l'histoire ?
Ben, nous en sommes que Gezicht est en train d'avoir son enquête qui avance bien. Il est en train de partir à se balader entre...
Le royaume de Perse,
Amsterdam. Parce qu'en fait, on se rend compte que Pluto aurait été créé à un de ces moments-là. Enfin, ça, c'est...
Pendant la guerre, justement, avec, entre les robots perses et tous les autres robots les plus forts du monde. Cette guerre.
Voilà. Et donc, il se rapproche vraiment du résultat, à savoir déjà trouver qui est le créateur, qui est le père de Pluto. Enfin, qui est Pluto ? Qu'est-ce que Pluto ? C'est surtout ça la question. L'enquête avance et on arrive un peu vers des points de non-retour, car petit à petit, la mémoire de Gezicht lui revient. Et se pose la question de savoir est-ce qu'il peut vivre sachant ce qu'il a fait ? Et est-ce qu'il peut continuer à agir pareil, sachant qu'en plus, on lui a effacé la mémoire et qu'on ne l'a pas jugé ?
Il est coupable.
Il le sait. Et il a été programmé pour s'en vouloir. Pour ne pas... Enfin, c'est très très bien écrit sur comment les sentiments arrivent au robot, en fait.
Ben surtout comment, on va dire, à partir du moment où tu as une programmation qui est faite, comment tu fais pour demander à ton robot d'aller contre la programmation que tu lui as fait subir.
Oui, et puis la programmation est aussi si bien faite que les émotions arrivent. Et là, est-ce qu'on est encore... une création lorsque des émotions arrivent. Enfin, une histoire très intéressante là-dessus, très bien menée. Moi, j'ai trouvé beau hein, ce Pluto. J'ai pris un grand plaisir.
Et surtout, c'est qu'on on commence à avoir vraiment des réponses sur l'histoire.
Un final encore.
Ben ouais, le final qui te dit, ben, faut encore attendre.
Ah ouais, là, franchement, une fin qui laisse un peu. Bon, qui est. Annoncer tout en longueur le long du tome, on se doute que cette fin va arriver, mais on se dit, mais comment vont-ils continuer pour arriver à la conclusion et répondre à toutes les questions posées ?
Moi, j'avais déjà mis des jetons sur une histoire.
Hein. Ouais, mais nous verrons bien.
Je te l'avais dit. Tu te rappelles ce que je te dis, ce que je te dis ?
Non, mais tu me le rappelleras tout à l'heure peut-être, parce que je sens que ça va spoiler comme théorie.
On le dira tout à l'heure. Ouais. Ça restera hors antenne, je suis désolé.
Ça restera entre nous.
On ne partagera pas. Si vous avez un avis là-dessus, n'hésitez pas à aller sur le forum, donner votre avis.
Ouais, sur les...
Comme ça, du coup, ça laissera une trace, et puis on pourra dire qui a gagné à la fin.
Dans les commentaires, et puis peut-être que Thio pourra même mettre un commentaire pour dire ce qu'il pense.
Ouais, enfin, en même temps, ça se trouve, je vais mettre le truc, tout le monde va dire, bah ouais, mais c'était évident, t'es nul.
Ouais, mais le quand même.
Ouais, c'est pas faux. Je suis le premier à le mettre, comme ça, du coup, je pourrais dire, hey, les gars, c'est moi qui l'ai écrit en premier.
Tu pourras dire Prums.
Prums. Ça, c'est nul sur les forums. Dès qu'il y a un mec qui produit un truc, t'as toujours un blaireau qui fait Prums.
Exactement.
Et là, tu te dis, mais ça sert à quoi ?
Super.
Enfin bon.
Lock and Key.
Lock and Key. Et là, une très, très, très bonne surprise. Tu es arrivé avec ce truc. Tu m'as dit, voilà, c'est une nouveauté. On m'en indique du bien.
Bon, oui.
Moi, en plus, donc je vois Lock and Key. Bienvenue à Lovecraft. Bon, déjà, tu me dis Lovecraft. Là, c'est un peu quand même... Bon, c'est un des auteurs, quoi.
Ouais. Moi, j'étais tombé dessus. Enfin, j'en ai entendu parler à plusieurs reprises. Je suis tombé sur une liste de je ne sais plus quel site qui parlait des 20 BD à avoir lu absolument. Je devais en avoir lu une douzaine ou un truc comme ça. Il y avait ça au milieu. Je fais, hein ? J'en avais un truc neuf, tu vois, dont j'avais jamais entendu parler. Ils te le mettent dans la liste des BD... avoir entendu qu'il faut avoir lu absolument, quoi, à côté de méga gros classiques, j'ai fait bon, j'étais bien intrigué.
Donc c'est Lock and Key, c'est Bienvenue à Lovecraft de Joe Hill et de Gabriel Rodriguez, donc c'est au prix de 14,90 chez Milady. Milady, c'est vraiment la petite boîte qui monte.
Oui, oui, ça dépend de Bragelonne.
Ouais, ça, c'est vraiment la petite boîte qui monte, ils font des trucs qui sont vraiment
bien. Ils vont chercher des auteurs forcément loin de DC et Marvel.
Ouais, mais...
Et des choses de qualité qui jusqu'ici avaient peu de chances d'arriver jusqu'en France. Et puis des choses plus adaptées, je pense, au public européen que le super-héros classique.
Donc le pitch de départ.
Vas-y,
c'est donc, alors tu me dis s'il est bon ou pas, hein, s'il te plaît. On va suivre.
Je te donnerai une note à la fin.
Ouais. Donc on va suivre en fait l'histoire d'une famille qui quitte sa maison suite. Au décès du père de la famille et qui vont vivre, on va dire, dans une vieille maison qui appartient, on va dire, à la famille depuis très longtemps et qui est sur une presqu'île.
Je pense que tu peux préciser la façon dont est mort le père, ça c'est important, je pense.
Le père, en fait, a été tué par un ancien élève à lui.
Il était conseiller d'orientation
dans un lycée et en fait, un de ses anciens élèves là est venu donc chez lui pour le désinguer.
C'était deux d'ailleurs. Hein.
Deux, tout à fait. Et ça s'est pas très bien passé. Le père est mort, hein, comme on l'a dit. Mais les enfants ont réussi à survivre, mais aussi à stopper les meurtriers. Un des deux est mort et un autre est en prison.
Et ils arrivent donc dans cette vieille maison.
Vieille
pleine
maison.
De mystères.
Pleine de mystères. Là, on se retrouve vraiment la couve. Ça te fait penser aux maisons typiques victoriennes que tu as dans l'univers de Lovecraft. Tu croirais à Dunwich, à Miskatonic. Enfin, tu prends tout
le bon gros manoir.
Bon gros manoir.
C'est les couvertures des jeux de rôle. Des premiers jeux de rôle Cthulhu.
Voilà, vraiment, ça c'est typique. Mais bon, de suite, on se met dans l'ambiance. On sait que la maison aussi a visiblement une histoire. On te dit qu'il y a des portes secrètes, que.
Puis on découvre aussi que les parents, la mère et c'est quoi, c'est son nom, leur oncle hein, qui est sur place,
ouais.
Ont des petits secrets, des petits mystères que les enfants vont devoir découvrir,
ouais.
Forcément.
Avec donc visiblement deux objets qui doivent être retrouvés, un passe-partout et une clé.
Et donc, ce qui est marrant, j'ai trouvé, c'est que chaque chapitre est raconté selon la voix d'un des personnages différents. C'est super intéressant. Quand on a Bud, par exemple, le plus jeune des enfants, qui parle, enfin, on a sa voix, on a ce qu'il raconte. Puis, dans un autre chapitre, on aura le point de vue de la fille ou du grand frère.
Et à chaque fois, la façon de raconter diffère.
Oui.
Elle se prête vraiment à l'âge de la personne, en fait.
Oui, à l'âge et puis au caractère aussi. On ressent bien le caractère des personnages. C'est très bien mené. Il y a un côté horrifique assez bien foutu. Assez bien prenant. on se rend compte qu'en fait, le truc qu'il y a dans cette maison, de toute façon, c'est un peu donné dans le titre, hein, c'est qu'il y a des portes qui ont des pouvoirs et qu'il faut des clés pour les ouvrir. Et donc, forcément, l'objectif, c'est de trouver ces clés. Il y en a deux qui sont mises en avant dans celui-là, il me semble, deux clés.
Ouais, mais visiblement, on apprend à la fin que il n'y en a pas que deux.
Il y en aurait un gros paquet, en fait.
Mais vraiment un très très gros paquet de clés.
Ce qui va permettre de faire plein d'autres tomes.
Yes! Vraiment, parce que ouais, c'est vrai, moi ça m'a bien pris comme histoire. Hein.
Le dessin.
Ben, des personnages qui sont un peu. Je sais pas comment le définir. Des fois un peu disproportionnés.
Ça m'a un peu fait penser à... Comment il s'appelle? Zut. Ah, j'ai un trou, le dessinateur de Preacher. Dylan.
Avec ouais, des têtes qui sont un peu grosses des fois,
Ouais.
mais un trait assez réaliste, tout en étant très comique. Voilà, je
Ouais,
sais pas si tu vois l'idée que je
je vois ce que
veux.
tu veux dire. Il y a un petit côté cartoony, léger, mais le problème, c'est que la thématique est tellement sur l'horreur que.
Bah, t'as le côté réaliste qui revient du coup après, quoi.
Ouais. C'est vrai que les personnages ont l'air sympas, mais le fait de raconter de l'horreur avec des personnages avec un côté sympa, ça fait un petit côté, un petit twist qui accentue le côté un peu effrayant. Puis les couleurs aussi vont aider à avoir ce ton. Cette ambiance un peu sombre, même s'il y a certains passages très colorés sur les extérieurs, etc. Non, une intrigue très bien menée, et puis surtout une bonne histoire complète, avec une ouverture, quand même une belle, belle, belle ouverture à la fin, pour une suite qui est un peu attendue. Alors c'est publié chez un petit éditeur aux États-Unis qui s'appelle IDW Publishing. Enfin, il publie quand même pas mal de trucs, c'est un des petits éditeurs. Enfin, en gros, dès qu'on n'est pas DC ou Marvel, on est un petit éditeur. Image même, limite, est considéré comme un petit éditeur, pour dire. Et c'est bien d'avoir ce genre de publication qui arrive jusqu'à nous, parce qu'en général, ça passe assez inaperçu. Et puis surtout que les petits éditeurs commencent à avoir vraiment des auteurs talentueux. Pour l'anecdote, on a découvert ça en cherchant
pour la petite
des infos
découverte.
sur le scénariste, Monsieur Hill. Monsieur Hill, son papa s'appelle King. Stephen King. Tadam! D'où peut-être ce goût prononcé pour les histoires d'horreur, cet amour sans doute de Lovecraft, avec cette référence claire et nette dans le titre. Et ce que j'ai surtout apprécié, c'est qu'on ne nous a pas vendu, je pense que c'est peut-être aussi lui qui a dû insister là-dessus, cette BD comme étant une BD par le fils de Stephen King. Ce que je trouve fort, fort agréable. Bon, bah, je crois qu'on a dit ce qu'on avait à dire.
Là, je suis en train de regarder, de feuilleter la galerie d'illustration de Gabriel Rodriguez à la fin.
Oui, chez. Oui, on n'a pas dit le nom
Oui.
de l'auteur. Gabriel Rodriguez au dessin, et donc c'est Jason Hill. C'est ça?
Joe.
Joe Hill, ah,
Joe
j'étais
Hill.
presque. Pourquoi Jason? Joe Hill au scénario. Oui, toujours hein, chez Milady, des bonus à la
Les
fin.
bonus à la fin.
Alors, ils sont pas très très nombreux sur cette histoire-là, mais bon, c'est
Bah déjà,
toujours
ils ont le
plaisant.
mérite d'y être, déjà.
Oui.
Et surtout, c'est que Milady le fait à chaque fois. Et bon, des fois, c'est encore plus riche que ce que cette fois-ci. Mais le monsieur, voilà, je ne le connaissais pas. Et il a une bonne patte, il a un bon petit goût de crayon qui est bien sympathique.
Bien dynamique, puis surtout la narration, la façon dont il va gérer sa mise en page qui est efficace et bien prenante. Et puis là, on voit surtout qu'il y a eu un travail sur le manoir assez phénoménal.
Il est très, très, très bien fait. Vraiment, ouais. Non, un bon truc bien plaisant quand même.
Bien, nous avons fait le tour de toutes nos bandes dessinées. Nous
Il a quand
allons
même,
peut-être.
excuse-moi, je te coupe, il a quand même reçu des prix, le petit
Ouais.
bouquin, quoi, Lock and Key, un British Fantasy Award, meilleure bande dessinée. Et il était nommé aussi dans la meilleure série et le meilleur scénario, au Eisner.
Pas mal hein, pour un petit auteur comme ça qu'on connaît à peine.
Bah, Joe Hill, il a déjà reçu des prix, par contre. Un Bram Stoker Award, un World Fantasy Award,
Oui,
un
c'est
autre.
pour ses romans là.
Ouais.
Bien, nous en avons fini, le meilleur du mieux. T'as vu, on y pense aujourd'hui.
Yes! Ah oui, parce que du coup, la dernière fois, on l'a pas fait.
Ouais.
Le meilleur du mieux aujourd'hui, je
Ah.
dirais, moi, très sérieux. Ouais, là, franchement, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont bien plu. Non, je dirais Lock and. Alors, voilà, si j'avais à choisir, toutes les séries qu'on suit actuellement, les bouquins m'ont bien plu. Les séries à
Ouais.
suivre. Là, Le Petit Chaperon Rouge et Lock and Key sont vraiment intéressants, mais pas de la même façon. Et si je dois en choisir qu'un, ce sera Lock and Key.
Lock and key.
Parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses dedans qui sont l'histoire, le scénario, le graphisme, puis la suite, quoi que ça appelle.
Eh ben là, j'aurais un choix aussi difficile parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de choses de qualité. J'ai envie de dire Scott Pilgrim parce qu'en fait, je trouve que c'est un tome qui remplit les promesses que la série nous faisait. C'est-à-dire que dans les premiers tomes, il y avait plein de promesses, mais aussi beaucoup de maladresse. Et je trouve que ça a atteint une certaine maturation et qu'on commence à avoir les promesses de la série arriver et que ça n'augure que du meilleur. Voilà.
Mais si on était à l'apothéose et que ça, maintenant ça va redescendre.
J'espère que non.
Ah, à voir.
J'espère que non. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez toujours aller sur le... Quoi, on a fini? Ah
Et
non!
non, toi tu fais même pas le HS, hop là.
Oh, la fatigue, la fatigue.
Le gars
Le
c'est ouais.
hors-sujet, le hors-sujet du jour, nous allons parler série télé. Et nous allons nous intéresser à une série télé française d'origine anglaise et à une série anglaise.
Yes.
On va commencer par le truc qui fait le plus peur.
La série française qui est dérivée d'une série anglaise.
Oui!
Alors donc, c'est le docteur Martin.
Tan-tan-tan!
Et là, les personnes qui me connaissent vont se dire, il a largement baissé dans mon estime. Il regarde des séries françaises à la
Il a
télé.
bu.
Non, c'est ouais, écoute, voilà, non, mais ça c'est voilà, c'est ma femme qui a dit, tiens, on regarde ça. Moi, j'ai pas dit non. Alors au début, j'étais franchement sur mon ordinateur à faire des trucs. Et au final, donc Thierry Lhermitte, bon bah.
Tu remarques quand même que pour regarder les trucs nuls à la télé, on a toujours l'excuse de nos femmes.
Non, mais
Hein.
non, alors très honnêtement, tout seul, je ne serais jamais allé le regarder.
Ok, bah ça raconte quoi? Parce que tu me dis Thierry Lhermitte. Bon, il y a Thierry
Ah
Lhermitte
non,
dedans,
mais.
mais qu'est-ce que ça raconte?
Alors c'est l'histoire donc d'un médecin, en fait, qui a vécu un petit drame dans sa vie et qui se retrouve à devenir, qui était un grand chirurgien, qui se retrouve à devenir médecin de campagne dans un village en Bretagne.
Ouah, ça fait rêver.
Voilà, ça c'est pitch de départ. Et donc pour en revenir au choix, tout seul, je l'aurais jamais regardé. Mais du coup, tu vois, regarde, la curiosité féminine fait que je suis tombé dessus. Alors le premier épisode, tac, 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 je continue à pianoter, tu fais. Et au final, je me suis retrouvé à me taper des fous rires, mais pour des dialogues qui sortent, mais de nulle part, quoi. Des trucs, tu te dis, mais ils sont complètement barrés dans ce
Mais
village.
c'est quoi? C'est un humour anglais ou c'est
Alors, je trouve
adapté à
que
la
c'est un.
française?
Moi, je trouvais que c'était un humour très anglais parce que t'as vraiment. Ils ont gardé le flegme britannique, quoi. Ils te sortent des trucs, mais dans l'autre monde, mais sans rire eux-mêmes. Ce
D'accord.
fait que voilà, une très très bonne poilade. Et ce qui fait qu'a priori, lundi, je pense que je regarderai la suite s'il y en a. Je sais même pas si ça repasse lundi.
Oui, les séries françaises en général, c'est un peu délicat à suivre.
Oui, parce qu'il y a
Il te
six
passe six
épisodes.
épisodes, il y a 6 épisodes dans la saison, et il te les passe par 3, donc autant te dire que c'est vite
Ça va
bouclé.
vite, voilà. Mais bon, a priori, voilà. Donc, c'est une dérivée d'une série anglaise qui s'appelle Doc Martens.
Yeah.
Et vraiment, voilà,
Oui, la
c'est.
série anglaise, j'ai vu ça dans le podcast Season 1, ils en parlaient, qui apparemment aurait 5 ou 6 saisons, un truc dans le genre, enfin un truc.
Mais c'est vraiment une bonne poilade. Je me suis bien régalé. Bon, c'est vrai que je sais pas comment il s'appelle, le personnage qui joue Samantha Hoops.
Ouais, l'acteur, ouais.
Ouais, qui là joue le mec de la police municipale. Il est excellent.
Ouais.
Il est excellent.
Il n'en fait pas trop des tonnes, parce que c'est vrai que dans Samantha Oops, t'as envie de le baffer tellement t'as l'impression qu'il en fait des tonnes.
Et
Hein.
bah écoute, là il en fait peut-être un peu, ouais, peut-être qu'il fait un peu des caisses, mais ça reste vraiment dans le truc, quoi. Ça reste
Ok.
dans le truc.
Eh
Vraiment une
bien,
bonne
moi, je...
série rigolote.
D'accord. Bah, moi, je vais parler de Misfits, quelque chose de beaucoup plus anglais, beaucoup plus bizarre. Alors, vous vous souvenez sans doute de Misfits of Science, une très très vieille série
Avec
américaine.
Courteney Cox!
Ouais, qui racontait l'histoire des jeunes scientifiques qui suivaient des expériences, avaient des pouvoirs, ils avaient un super labo et tout. Enfin
Et que Mr. Freeze, il apparaissait que dans le pilote. On ne
bon.
voyait
Voilà.
plus après.
Donc un truc, voilà, une série, voilà. Et donc là, c'est une sorte de remake, mais à l'anglaise. Vraiment à l'anglaise. Là, en fait, c'est plus des jeunes scientifiques, là, ce sont des jeunes en travaux d'intérêt généraux qui se retrouvent donc à bosser ensemble, sachant que c'est tous des... Pff, des branleurs, c'est des petits cons, ils en foutent pas une, ils font tout et n'importe quoi. Tu as le champion d'athlétisme qui s'est fait choper avec de la coke et qui donc a servi d'exemple. Tu as la jeune nymphette qui pense qu'à brancher les mecs et à en profiter. Tu as la fille un peu vénère, qui a l'air toujours énervée, qui arrête pas de se battre, etc. T'as le jeune qui a la tchatche et qui parle, qui parle, qui parle, et qui en fait emmerde tout le monde jusqu'à ce que ça parte en vrille. Et puis t'en as un, il est trop bizarre. Il te regarde, il te fait peur. Et donc, suite, alors qu'ils sont en train de faire leurs travaux d'intérêt généraux, il y a un gros orage, ils se prennent un éclair, ils en sortent avec des pouvoirs. Donc, bon, l'origine des pouvoirs est un peu bidon. Sauf que c'est des pouvoirs, on va dire. C'est pas des pouvoirs, ce sont des capacités spéciales. Parce qu'un pouvoir, tu te dis, waouh, ouais, c'est trop bien, c'est génial. Sauf que, bon, effectivement, celui qui peut remonter dans le temps, c'est bien. Hein, c'est pas mal comme pouvoir de remonter dans le temps. Effectivement, c'est le qui lit dans les pensées, c'est pas mal. Bon, elle le maîtrise pas totalement, mais c'est pratique de lire dans les pensées. Celui qui se rend invisible, c'est aussi assez cool. Par contre, la fille qui, lorsqu'elle se fait toucher par un homme, provoque chez l'homme une irrépressible envie de sexe, mais irrépressible au point qu'en gros, il tente de la violer. Ça, c'est du pouvoir super cool.
C'est sympa.
Voilà. Et puis il y en a un, celui qui a la tchatch, bah lui, il n'a pas de pouvoir et ça l'emmerde. Parce qu'il ne comprend pas, c'est pas normal qu'il n'en ait pas. Et en fait, leur éducateur, à cause de l'éclair, lui devient complètement fou, essaie de les buter et ils sont obligés de se défendre. Et donc dans le premier épisode, ils finissent par le liquider et à planquer le corps. Sauf qu'ils se retrouvent forcément liés par ce crime qu'ils ont commis et qu'il y a une enquête qui commence à avoir lieu. Et donc on suit un peu ces jeunes, comment est-ce qu'ils découvrent leur pouvoir, comment ils essayent de vivre avec, avec un ton très anglais et puis surtout une vision de la jeunesse. Waouh! Tu te rends compte? Des jeunes qui, quand ils font une teuf, ils se torchent la gueule et ils fument des joints. Voire ils prennent de la coke, tu vois. Comment? Mais les jeunes ne sont pas comme ça, c'est pas possible. Bref, j'ai trouvé que c'était une vision de l'adolescence, enfin, de l'adolescence paumée, parce que oui, effectivement, tous les jeunes ne sont pas comme ça, mais de l'adolescence paumée qui était assez crédible. On y croit, en fait, à la façon dont ils sont représentés. Des jeunes qui se cherchent, des jeunes qui savent pas quoi faire de leur vie, et c'est toujours traité avec des thèmes. Alors chaque épisode a son petite intrigue à lui, sachant qu'il y a un beau fil conducteur. La première saison fait 6 épisodes, il y a une deuxième saison qui est passée. Bref, je recommande grandement, si vous avez l'occasion de choper les DVD ou de choper une diffusion quelconque, c'est une très très bonne série Misfits. Et les musiques sont toutes géniales, parce que c'est les Anglais, ils font des super musiques. Et suite à ce claquement de langue de Thio, nous allons...
Qui rend fou Anaï à chaque fois.
Ah ouais, au montage, c'est l'horreur. Nous allons pouvoir finir ce podcast.
Yes, le 25e du nom.
Waouh, on aurait dû faire un double-sized, comme ils font les Anglais, les Américains, quand ils sortent une BD de numéro 25.
Non, ou alors il faudrait qu'il se passe un événement cataclysmique.
Bah, peut-être qu'il aura déjà eu lieu, hein, vu qu'on enregistre 15 jours avant.
Le cataclysmique a déjà eu lieu tout à l'heure, en fait.
Ouais, on a cassé une bouteille. Bon. Bref, vous pouvez nous retrouver avec toutes les infos sur lavoixdesbulles.fr, toutes les infos derrière. On passe aussi chez Bulles et Onomatopées, petit blog bien sympa avec plein de critiques bien cool et qui m'a fait acheter des BD que je l'ai. Et puis vous pouvez nous retrouver donc dans 15 jours, sachant qu'une fois par mois, en bonus, on vous fait un One A Club HS, on va appeler ça One A Club HS, avec un invité. À bientôt.
À bientôt.
Bientôt, si je ne me trompe pas, par rapport au moment où cette émission sera diffusée, c'est le week-end prochain qu'il y aura le festival d'Angoulême, la Mecque de la bande dessinée. Ça va être assez énorme.
L'usine,
voilà. Je n'y serai pas cette année, Thio non plus. Peut-être que l'an prochain, on pourra s'amuser, essayer d'y aller. Je pense que ça pourrait être super sympa. Enfin,
ouais,
Pas forcément évident, mais super sympa.
Pas forcément évident.
Oui, quoi la foule, les piles de dessins.
Le petit truc, là.
On en fera une coupe, parce que c'était complètement anti-radiophonique ce qui vient de se passer.